Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour et bienvenue à Cinérama, émission de cinéma. Le 16 septembre sont sortis, quelques films, quelques biopics. Il y avait notamment l'histoire de James Dean, les débuts du gangsta rap. Mais toi, c'est pas ce que t'as choisi, Manu.
Et non, j'ai choisi ce qu'on peut appeler un faux biopic, puisque c'est Marguerite qui est inspirée donc, d'une chanteuse américaine qui chantait particulièrement faux.
Et puis tu parleras aussi d'agents plutôt spéciaux.
Les agents très spéciaux, Uncle, adaptation d'une série culte des années 60. Et puis enfin, je ferai une nouvelle plongée dans le passé avec un film noir, La Grande Horloge de John Farrow.
Et puis moi, je parlerai de Everest de Balthazar Kormákur. C'est une sorte de biopic aussi, puisque c'est l'adaptation d'un récit quasi journalistique. Et puis, ce sera l'occasion de jouer un blind test sur les expéditions au cinéma, hors expédition interstellaire, parce que là, on a trop le choix. Voilà. Et puis, on parlera aussi de La Vie en Grand de Mathieu Vatpied. C'est Cinérama qui débute.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, comme je l'indiquais, Marguerite s'inspire ouvertement de l'extravagant parcours de l'américaine Florence Foster Jenkins, une soprano célèbre pour son manque de rythme, de hauteur, de ton et plus globalement son incapacité à chanter correctement.
Rien que ça,
oui. Ce qui, pour des airs d'opéra en plus, ou de chants lyriques exigeant une solide technique, est plutôt embarrassant. Alors, Xavier Jeannely transpose l'histoire en France dans le Paris des années 20. Marguerite Dumont est une aristocrate fortunée, passionnée d'opéra. Elle organise depuis des années des concerts privés pour son cercle d'amis bienveillants, pour ne pas dire complaisants et hypocrites. Car comme je l'ai dit plus haut, en référence à son modèle qui l'inspire, Marguerite chante tragiquement faux et jamais personne ne lui a signalé. Alors son majordome, ultra protecteur, se démène comme un fou pour qu'elle ne puisse se rendre compte absolument de rien concernant son manque de talent. Il distribue des boules-caisses au petit personnel, il lui achète des tonnes de fleurs en cachette, détruit les journaux écrivant des critiques assassines et va même jusqu'à faire chanter, au sens de chantage, les gens pour que Marguerite ne se rende compte de rien. Car stupéfaction, celle-ci est persuadée de posséder un talent unique, d'être douée pour un art qu'elle chérit et qui en retour ne lui rend pas. Son mari, désespéré et lâche, et son entourage, entre moquerie et sympathie, entretiennent l'illusion cruelle de son statut de diva de salon. Mais un jour, elle se fait repérer par un journaliste et un poète, on va dire anarchiste, qui décide de la porter au nu et de l'inciter à se produire devant un vrai public d'opéra. Son mari, dépité, essaie de l'en dissuader, mais transporté par une sincérité et une fougue, Marguerite décide de prendre des cours de chant et de se lancer dans l'aventure. On écoute un extrait de sa voix, je pense.
Et maintenant, le moment que nous attendons tous, la baronne Marguerite Dumont.
Sortez, monsieur, mais laissez pas la porte ouverte, c'est insupportable.
Elle a toujours chanté comme ça?
Ah non, elle a beaucoup progressé.
Alors cette imposture volontaire n'a rien d'une posture. Marguerite semble totalement ignorer, non pas son absence de talent, mais pire, qu'elle chante comme une casserole, ce qui enchante une partie du public venu se poêler devant ses exploits scéniques. La première apparition de la dame provoque d'ailleurs la même envie de rire pour nous spectateurs venus assister à un biopic qui s'annonçait consensuel. Or pas du tout, Marguerite est un film drôle et cruel, d'une méchanceté assez inattendue, sous-tendue par une sensibilité à fleur de peau qui évite in extremis de sombrer dans la mièvrerie. La première partie est par ailleurs assez exceptionnelle et déjoue de façon virtuose certaines craintes inhérentes à ce type de projet. Loin du biopic consensuel, cette étonnante histoire est dynamisée par une mise en scène souvent inventive et cohérente. La reconstitution historique est brillante, sans sombrer dans le prêt-à-porter académique. La lumière, toujours tamisée, baigne dans des couleurs sombres et grisâtres, traduisant l'univers morne de l'aristocratie. Mais certains plans nettement plus picturaux et colorés traduisent en revanche le besoin d'évasion et de folie d'une femme singulière et plus ambiguë que son côté ingénu ne laisse entrevoir. Car finalement, Marguerite ne serait-elle pas une rebelle qui brave le bon goût et les bonnes manières à sa façon ? Ne pratique-t-elle pas un art qu'elle ne maîtrise pas, et c'est un euphémisme, pour deux raisons sous-tendues par le réalisateur ? D'abord, peut-être un désir de liberté anime sa passion et dans son délire, elle apparaît clairement mythomane, s'inventant toutes sortes d'aventures extraordinaires, de voyages à l'étranger où elle donna à son public des récitals exceptionnels. Alors, est-elle consciente ou non de son univers chimérique ? Giannoli se garde bien de nous répondre. Ensuite, et là, il y a une piste à creuser qui est assez qui rend le film vraiment très intéressant et plus secret, et proche même de certains films, je trouvais, de David Cronenberg. Marguerite envisage, consciemment ou non, ça je ne sais pas, sa prestation comme un acte sexuel, un coït qui culmine jusqu'à l'extase devant un public admirateur et voyeur. Il y a une forme d'exhibitionnisme, je trouve, dans son acte, et puis il y a une scène où il y a un filet de sang qui sort de sa bouche en chantant trop loin. Enfin bon, je ne vais pas développer, mais il y a de ça à mon avis. Enfin, je pense que ce n'est pas quelque chose d'involontaire.
Donc mythomane et nymphomane.
Voilà, les deux, oui. Surtout, bon, en apparence, Giannoli poursuit une thématique présente sur ses autres films, l'imposture de « Et si j'étais chanteur à superstar en passant par à l'origine ?» Sauf que là, il s'agit vraiment d'une imposture non préméditée, purement construite au détriment de l'héroïne. Mais bon, là, petit défaut du film, je trouve que le film ne tient pas la distance de sa première heure et finit quelque peu par s'engouffrer dans une suite de scénettes un peu répétitives qui procurent parfois de réels moments jouissifs, mais qui perdent de vue l'ambition initiale. Alors jusqu'à s'empêtrer, je trouve, dans une fin assez interminable. Un bémol quand même pour un très bon film français, transcendé évidemment par l'interprétation habitée de Catherine Fraud, qui est à la fois pathétique et hilarante, et de second rôle particulièrement bien campé par des acteurs peu connu. Alors je dois avouer que je me suis fourvoyé quand un interprète du mari, je l'ai confondu avec Gilles Lellouche.
Ah oui.
Et oui, j'ai cru que c'était lui. Bon, que je trouvais là très très bon pour une fois. C'est dommage. Mais alors c'est André Marcon. Alors je me disais quand même pour Gilles Lellouche, il avait pris du poids puis il avait l'air plus vieux. Mais il a un petit air. Et j'ai cru que c'était lui du début à la fin.
Merci Manu. Marguerite, donc bon film de Xavier Giannoli sur les écrans, un peu mieux que La vie en grand de Mathieu Vadepied.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Alors on se demande ce que La vie en grand de Mathieu Vadepied faisait à la semaine de la critique du dernier Festival de Cannes, produit par Olivier Nakache et Eric Toledano, les auteurs de Intouchables. Eh bien on sent le scénario calibré et les images qui s'empilent pour étoffer cette histoire de seconde chance. Alors on suit Adama, 14 ans, qui vit avec sa mère dans un petit appartement en banlieue parisienne. Il l'aime, sa mère, il travaille sur les marchés et beaucoup moins à l'école. Alors un jour avec Mamadou, plus jeune que lui, ils vont trouver le moyen de changer leur quotidien, voir leur futur et celui de ceux qui les entourent. C'est donc une fable sociale sur fond de banlieue, un feel-good movie qui côtoie le naturalisme, une croisée des genres qui permet tout. Alors d'un côté, on est vraiment placé avec Mamadou et l'approviseur qui lui fait la leçon dans son bureau, voilà, comme certains l'ont peut-être vécu dans leur scolarité. Et puis d'ailleurs, puis d'un autre côté, eh bien, on est avec les deux garçons qui montent un business sans que leur entourage n'aperçoive quoi que ce soit. Et je peux vous assurer, eh bien, que c'est un gros business. Alors pour autant, La vie en grand n'est pas un mauvais film, mais laisse trop apercevoir, eh bien, ses ficelles, deux enfants à qui on s'attache, un monde d'adultes avec ses dealers violents, sa police aussi, mais parsemé de quelques gentils, dont un prof de sport qui soutient tous ceux qui tombent. Alors dans son portrait de la banlieue, même si ce n'est pas le sujet du film, on est très loin de ce qu'on voit dans Dipane, d'Audiard, dont on a parlé dans cette émission, mais qui nous divisait, à tel point que le réalisateur, là, se contente de montrer des immeubles, des flics et des trafics. Pas de vie pour autant, si ce n'est dans l'appartement de Mamadou. Donc, La vie en grand est fabriquée à partir de bonnes intentions et saupoudrée de petites prises de conscience. Mais voilà, ça fait un film plutôt mou. Voilà.
Un peu comme les films des producteurs, d'Intouchable au dernier, là, je ne sais plus comment il s'appelait.
Samba.
Samba, voilà, oui. Qui était un peu comme ça, gentiment social.
J'en ai vu au cas des deux, donc je ne pourrais même pas comparer. Avant de retrouver le blind test, après avoir parlé d'Everest, un blind test sur les films d'expédition et quasiment d'aventure, eh bien, on va parler d'agents spéciaux.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Alors je garde le souvenir ému d'une série que je visionnais lorsque j'étais haut comme trois pommes. Bon, je n'ai pas beaucoup grandi depuis, en taille. Je m'identifiais souvent à des acteurs comme Robert Vaughn et David McCallum, qui étaient un peu mes héros d'enfance, des comédiens sans grand relief, mais qui avaient une prestance propre à fasciner les gosses, ébahis devant leurs exploits James Bondiens. Avec Mission Impossible, des agents très spéciaux étaient la série culte d'espionnage des années 60. Il n'est donc pas très étonnant aujourd'hui de se retrouver devant une adaptation cinématographique de la série, tant les idées novatrices et les scénarios singuliers se font quand même de plus en plus rares à Hollywood. Cette pénurie se traduit par une avalanche de remakes, suites, les nouveaux Marvel dont personne n'avait jamais entendu parler, et adaptations de séries qui ne sont pas de toute première jeunesse. Alors à quand La Petite Maison dans la Prairie et La Croisière s'amuse sur grand écran en 3D avec les sièges qui bougent et pourquoi pas en odorama. Et puis avec Hugh Jackman dans le rôle de Charlie Ingalls et George Clooney dans celui du Capitaine Stubbing. Bon, on peut toujours rêver. Quoique La Croisière s'amuse, il a failli avoir une adaptation. Hein. Attends, ils ont laissé tomber l'idée, je pense qu'ils ont eu raison. Hein. Mais revenons à nos moutons, plutôt à nos espions. Contrairement aux Missions Impossibles qui sont des transpositions modernes de la série, ne gardant pas grand-chose des aventures d'Ethan Hunt et de sa joyeuse équipe, Agent très spécial, Uncle aussi, enfin c'est le sous-titre, joue à fond la carte de la nostalgie, situant l'action en 1963 en pleine guerre froide. Les scénaristes, sans doute peu motivés par la concurrence, ne se sont guère fracassés le coccyx pour nous pondre une histoire d'une banalité affligeante. L'agent de la CIA Solo et l'agent du KGB Kuryakin sont contraints de travailler ensemble pour une mission top secrète, mettre hors d'état de nuire une organisation criminelle internationale à forte tendance nazie, ça c'est original, déterminée à briser l'équilibre mondial, ça c'est encore plus original. Leur méthode est bien fabriquer des armes nucléaires grâce au concours d'un célèbre scientifique que cette organisation a kidnappé. Nos agents n'ont qu'une piste, la fille du scientifique, la seule à pouvoir infiltrer les méchants afin d'empêcher la destruction de la planète.
Nous avons il y a peu découvert l'existence d'une organisation criminelle internationale liée à d'anciens nazis. La rumeur veut qu'ils aient conçu une bombe atomique.
Nous n'avons pas d'autre choix que celui de collaborer afin d'infiltrer cette organisation.
Nous vous laissons faire connaissance tous les deux.
Napoléon Solo, voilà donc le plus doué des agents de la CIA.
Il y a Kuryakin.
Voilà donc le cadet du KGB, devenu leur meilleur élément en moins de 3 ans.
L'Amérique fait équipe avec la Russie.
Cela sent l'embrouille, oui.
Derrière la caméra, on retrouve Guy Ritchie, hein, qui s'en était plutôt bien sorti avec ses deux élégants Sherlock Holmes. Mmh. Petite réussite inattendue, grâce au duo Robert Downey Jr. et Jude Law, tous deux quand même épatants. Alors Guy Ritchie tente de retrouver l'alchimie ou la formule entre Henry Cavill et Armie Hammer. Mais la potion semble un peu éventée. Le caractère trop aseptisé des personnages handicape leur union et même le sous-texte, on va dire homosexuel, nettement moins subtil que dans Sherlock Holmes, paraît plaqué telle une recette que l'on finit par rater par simple esprit de désinvolture. Mais en revanche, là où Ritchie surprend, c'est dans sa manière de conduire le récit, de refuser un montage trop cut, pourtant sa marque de fabrique, de contourner les scènes d'action pour les transformer en moments de comédie pure, de miser sur l'élégance pop plutôt que sur celui de la surenchère. Alors cette semi-parodie, qui est quand même d'une vacuité totale, hein, est néanmoins un ravissement pour les yeux, une pâtisserie vintage dotée d'une superbe bande-son échappé d'un épisode d'Amicalement Vôtre, de costumes 60s élégants et sexy, et de décors à la fois classe et surfait. Alors sur le plan purement cinématographique, Ritchie livre son film le plus accompli, même s'il s'apparente un peu trop à un exercice de style brillant mais vain. Et je dois reconnaître que si l'on passe plutôt un bon moment, le plaisir quand même s'évente de jour en jour. Plus les jours passent et moins je m'en souviens. En fait, c'est un peu le problème de ce type de films qui sont très agréables sur le moment. Et il n'en reste pas grand-chose au bout de quelques temps.
On n'appelle pas ça des films du samedi soir.
Du dimanche soir.
Du dimanche soir.
Parce que
aussi.
Le samedi soir, on fait autre chose on que d'aller au cinéma. Hein.
Voilà, on va passer maintenant à une grande expédition. C'est celle d'Everest et ce sera l'occasion de jouer un blind test.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Everest de Balthazar Cormacur, film racontant une expédition qui tourne mal, survival sur le toit du monde et récit d'une époque où le tourisme de la montagne balbutiait encore. Eh bien, Everest est tout cela. Tourné en 3D avec le procédé IMAX, eh bien, on imagine qu'un effort va être mis sur l'image et que l'aspect visuel va compenser un scénario un peu congelé. Tout d'abord, si Everest est produit par Universal pour un budget salé, il est aussi tourné par l'Islandais Balthazar Cormacur, étrange réalisateur qui, à la manière d'un Soderbergh, mais avec moins de succès quand même, alterne grosses productions et petits films, et non dénués d'intérêt, ces petits films. Un de ses derniers films, d'ailleurs, avait la nationalité islandaise et causait déjà du froid. Il s'agissait de Survivre, film sec, racontant l'histoire d'un pêcheur qui a passé plus de 6 heures dans les eaux glacées d'Islande, à peu près 6 degrés. Voilà.
Un film sec avec un pêcheur.
Oui. Everest, c'est aussi le froid. Hein. C'est comme dans Survivre. Après tout, on est sur le toit du monde à 8848 mètres. Comme il est dit dans le film, est-ce bien normal de randonner à l'altitude de croisière des Boeing 747 ?
D'entre vous qui osent affronter leurs rêves, Adventure Consultants offre ce qu'il n'est pas possible de décrire avec des mots. Et pourquoi on ne le décrit pas dans la brochure ? Parce que c'est surtout de la souffrance. En deux mots, les gars. Les êtres humains ne sont tout simplement pas faits pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Alors une fois qu'on sera là et qu'on aura passé le col sud, nos corps vont littéralement mourir, j'insiste, littéralement mourir. C'est pas pour rien que ça s'appelle la zone de la mort. Alors voilà la question, peut-on vous conduire jusqu'au sommet et vous ramener en bas avant que ça se produise ?
C'est tout doucement que débute Everest. Hein. Il prend le temps de nous montrer les personnages qui vont jouer leur vie, quelques temps après, dans ce corps expéditionnaire. Alors on trouve de tout. Tout d'abord, un de ceux qui a démocratisé l'ascension au Népal au milieu des années 90, on vient de l'entendre. On a un Texan pure souche, un postier un peu paumé, un Russe qui monte sans masque à oxygène, un alcoolique interprété par Jacques Gyllenhaal, une Japonaise qui a déjà fait 6 des 7 grands sommets du monde. Et on n'oubliera pas un journaliste du nom de Krakauer, car c'est de lui qu'est tiré ce récit. Il était présent dans l'expédition pour écrire un article à son retour dans le magazine Outside. Il s'agit donc de l'adaptation de son récit. Alors nous ne sommes pas ici dans un film de héros. Everest en prend très vite le contre-pied. Cela veut dire qu'on ne va pas retrouver de prouesses invraisemblables, mais juste la mise en situation d'hommes dans des conditions extrêmes où l'Everest devient une métaphore de l'ambition. C'est l'une des questions posées par le journaliste aux alpinistes aussi. Pourquoi faites-vous cela ? Il s'agit d'une expédition coûteuse en temps et en argent. Et en contre-champ, eh bien, on voit les familles où on les imagine. Et plus encore à cette époque que maintenant, où l'ascension est plus sécurisée, eh bien, partir à l'assaut de ce sommet relevait quand même du défi. Alors cet aspect est bien montré par Cormacur, qui ne fait pas de l'Everest un personnage, mais plus un objet d'émerveillement, de surprise, de froideur, et voire même d'indifférence. Comme il s'agit d'un survival, eh bien, il s'agit aussi de représenter le danger ou la mort. Alors si on est parfois un peu perdu, mais c'est bien normal, les scènes les plus tragiques ne sont pas les plus spectaculaires, et certaines sont parfaitement réussies. Il choisit notamment de ne pas dramatiser la mort, de ne pas surligner l'abandon. Pour moi, c'est les scènes les plus réussies. Mais d'un autre, il utilise des moyens narratifs convenus, alternant des images du grand froid à 8000 mètres avec la douceur d'un foyer américain. C'est un peu gros et ennuyeux parce qu'il le fait quand même, deux, trois fois. Alors parlons maintenant des images. Everest a été tourné en 3D, le procédé fonctionne bien, même s'il ne faut pas imaginer avoir le vertige. Il y a quelques scènes qui auraient d'ailleurs mérité plus de soins. L'accent est davantage mis donc sur ce froid et cette glace qui règne en mètres si haut que sur le danger à proprement parler de la chute. Les risques pris par ces alpinistes relèvent plus de leur constante corporelle à maintenir que du mauvais pas qu'ils pourraient faire. La montagne est surtout vue du ciel. Quand on la voit trop près, eh bien, il est déjà trop tard. Le mauvais temps gâte considérablement la vue. Alors, sans être un grand film, Everest a l'avantage de nous faire partager le défi de quelques hommes sur Terre. Voilà. Et si vous avez vos lunettes 3D, c'est encore mieux. Ça donne l'occasion de jouer à un blind test, ce film de Balthazar Cormacur. Je n'ai pas parlé du casting. Hein. Il y a Jason Clarke, Jacques Gyllenhaal, qui a un petit rôle, mais petit rôle de déjanté alcoolique qui va faire l'ascension un peu à son rythme, n'importe comment. Et puis Josh Brolin, qui joue le personnage principal. Donc, les films traitant des expéditions peuvent recouvrir plusieurs thèmes. Hein. Il y a les expéditions scientifiques, sportives, militaires ou encore interstellaires. Elles s'attachent ensuite et donc à un milieu. Ça peut être la montagne, comme pour Everest, la banquise, comme Antarctica, le silence de ces espaces infinis qui nous effraient, pour Prométhéeus, ou le monde maritime avec main et milieu sous les mers. Voilà maintenant l'occasion de jouer un blind test. Premier extrait.
Si jamais il se fait surprendre par le mauvais temps, ils vont pas s'en tirer. Gabe, il lui faut un spécialiste des premiers secours et en plus, il faut un gars qui connaisse toutes les prises.
Je sais très bien qu'il refuserait mon aide, primo. Et secondo, c'est pas pour ça que je suis revenu.
Nos problèmes, ils passeront après. La vraie priorité, c'est eux. Et s'il n'y arrive pas tout seul?
Écoute, Jesse, j'ai pas grimpé depuis des mois. J'ai plus mes sensations.
T'as peut-être plus le cran, tu veux dire.
Voilà, c'était facile. Hein.
On reconnaît grâce à la voix du doubleur. Oui. Cliffhanger.
Voilà, Cliffhanger.
Et Arline.
Ça se passe à la montagne, c'est une expédition. Deuxième extrait.
Trevor, il y a quoi au fond du trou ?
Bien, si Jules Verne a décrit la réalité, ses conduits font des milliers et des milliers de kilomètres.
Jules Verne a écrit des bêtises.
Bon, et alors, qu'est-ce qu'il y a au bout ?
La théorie la plus logique est qu'il doit y avoir une fin.
Une fin ? Est-ce qu'il y a d'autres théories ?
Voyons, les parois de ces conduits ont pu être façonnées par l'eau qui coule encore tout le long et qui pourrait, peut-être, freiner notre chute comme un toboggan, quoi !
Un toboggan ? Ouais, celle-là, je la préfère !
Mais cette eau pourrait aussi avoir formé des stalagmites qui pourraient aussi nous empaler, vous croyez pas ?
Oui, c'est possible !
Ah, le ton de la petite comédie. C'est quoi?
Bah, il s'agit du voyage au centre de la Terre d'après Jules Verne, hein, mais à mon avis, c'est l'une des plus médiocres adaptations.
Et oui.
Celle de 59 avec James Mason.
Avec James Mason, oui, effectivement, hein, ça n'a rien à voir. Là, nous sommes quand même sur le volcan Snæfellsjökull en Islande, et là, c'était le moment où il pénétrait donc dans le volcan.
Voudrais-tu faire partie de mon équipe?
Est-ce que je vous...
Je veux que tu rejoignes l'équipe Zissou.
Je ne crois pas que je puisse faire ça.
Pourquoi?
Eh ben, c'est pas mon domaine. J'ai pas eu la formation pour ça.
Personne ici n'a eu la formation. Klaus, par exemple, était conducteur de bus. Volodarski était professeur suppléant dans un lycée. On est une bande de chiens errants. T'as pas compris?
Steve, je dois t'avouer que je ne nage pas très bien moi-même. La réponse est oui.
Ben oui, j'espère bien. Je vais te commander un bonnet rouge et un slip de bain. Coupé.
Ah, ça, c'est un gros indice, un bonnet rouge et un slip
de
bain.
C'est la vie aquatique?
Oui.
D'accord.
De Wes Anderson. Voilà. Là, c'était l'expédition maritime. Maintenant, nous allons passer à une expédition militaire et scientifique. Alors là, je joue un peu, sur le thème. On écoute, quatrième extrait.
Auriez-vous oublié votre promesse?
Soumise aux impératifs du service. Je ne peux en conscience nous retarder pour l'étude d'un pécari géant ou d'un iguane. Fascinant, je vous l'accorde, mais sans utilité immédiate.
Il y a là, je crois, une opportunité réelle de combler respectivement nos attentes. Cette île est longue et étroite. Votre route va nous obliger à la contourner. Or, je pourrais la traverser et me trouver
Stéphane,
de l'autre côté.
Par expérience, je vous sais capable d'observer un nid d'oiseau vide pendant des heures.
J'avancerai sans m'attarder, ne m'arrêtant ici et là que pour effectuer les mesures les plus importantes, et par là même faire des découvertes qui assurément viendront enrichir notre savoir en histoire naturelle.
Nous aurions le vent et la marée contre nous, je vous l'accorderai. Ce n'est pas le cas, et je me vois contraint de dire non.
Je vois. Ainsi, après tout ce temps passé au service de mon pays, je n'ai qu'à me résigner à prendre part à cette expédition guerrière sans porter de jugement. Je devrais me réduire à ignorer de pures merveilles et ne penser qu'à la destruction. Et encore, je ne dis rien sur la corruption du pouvoir.
Comptez-vous, docteur, vous vous égarez.
Non, Jack, non. C'est vous qui vous égarez. Je sais que pour ma part, lorsque je promets, je tiens parole.
C'était une promesse sous condition.
Et je n'ai jamais senti un seul instant
de sagesse pour
vous.
Nous ne sommes pas là pour satisfaire vos caprices.
Hé, Russell Crowe a parlé. Alors...
Bah, il s'agit de Master and Commander de Peter Weir, mais oui. Je ne l'ai pas vu.
Oui, eh ben, c'est un film de 2003. Et là, c'était donc expédition militaire. Hein. D'abord, il s'agissait de faire la guerre, mais ils avaient emporté donc, un scientifique qui, lui, voulait s'arrêter sur une des îles qui serait vaguement l'île des Galapagos, effectivement, pour regarder eh bien, tous les animaux qui circulent sur cette île-là. Maintenant, on va passer au dernier extrait. Et là, c'est une expédition un peu solitaire.
Et ce matin, nous avons l'immense honneur de recevoir un invité de marque sur notre rocher. Autoproclamé montagnard aguerri et super-héros, Aaron Ralston! On applaudit Aaron!
Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être ici. Merci. Est-ce que j'ai le temps de saluer mon père et ma mère?
Papa et maman! Faut penser à son papa et à sa maman, hein, Aaron?
Ouais, c'est vrai. Salut, maman. Je suis vraiment désolé. J'aurais dû décrocher l'autre soir. C'est vrai, si je t'avais eu en direct, j'aurais pu te dire où j'allais. Et je serais sûrement pas coincé au fond d'un canyon.
Là, y a pas photo! Mais tu sais ce que je dis toujours, hein? T'es tête de mule. Mais c'est avec ça qu'on fait de l'audience, une sacrée audience. Grâce à toi, Aaron.
Alors, c'est quelqu'un qui est coincé dans un canyon. Alors, je vais donner
c'est
le nom d'acteur.
127...
Oui.
127 heures, c'est
127
ça
heures. D'accord, c'était James Franco.
James Franco.
Qui, là, eh bien, s'invente une émission de radio. Hein. C'est complètement inventé, ce passage, parce qu'il est bien coincé au fond de ce trou. 127 heures, film de Danny Boyle. Ainsi s'achève eh bien, ce blind test consacré aux expéditions diverses et variées. C'était à propos de la sortie du film Everest ce 23 septembre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Le
L'ouverture de la grande horloge impressionne d'emblée par sa virtuosité filmique. Un long panoramique balaye la ville de nuit, puis la caméra s'introduit dans un immeuble. Cette continuité filmique, sans la technique contemporaine, n'a rien d'une coquetterie, d'une mise en bouche pour appâter le spectateur conquis par un tel tour de force. La figure du plan séquence est au contraire récurrente tout au long du film comme un geste fort en accord avec le sujet. Alors chacune des séquences, très peu découpée, met en scène un dispositif complexe et précis où la caméra se déplace d'un personnage à l'autre dans un décor baroque et étrange. Une mise en scène plus sèche dans la pure tradition des films noirs n'aurait pu mettre en valeur de manière aussi somptueuse les décors, à commencer par l'immeuble de rédaction où se situe l'action. L'architecture rétro-futuriste nous immerge dans un univers anxiogène à la frontière du fantastique, anticipant quelques années avant certains épisodes de la quatrième dimension. D'ailleurs, la fameuse horloge qui donne son nom au titre du film ressemble à un objet insolite et inquiétant par sa démesure. Sa présence n'aurait pas dépareillé dans un roman de science-fiction de Philip K. Dick, très bizarre tout ça, et accord parfait entre le fond et la forme. Alors la grande horloge est l'adaptation d'un polar de Kenneth Fearing qui fut traduit en France par Boris Vian sous le titre Le Grand Horloger. L'auteur de l'arrache-cœur a dû être sensible aux incursions surréalistes et à cette ambiance particulière qui règne dans le roman magnifiquement adapté par le scénariste Jonathan Latimer, fidèle d'ailleurs collaborateur de l'auteur de Hondo. John Farrow n'est pas considéré, loin s'en faut, comme un grand cinéaste. Dans le genre qui nous préoccupe, Robert Siodmak, Fritz Lang, Otto Preminger ont davantage la cote. Alors même des petits artisans comme Joseph Lewis ou Jack Turner bénéficient d'une certaine aura que John Farrow n'a jamais eue. Et pourtant, La Grande Horloge est un chef-d'œuvre, une œuvre plastiquement sublime qui porte la griffe du chef opérateur d'assurance sur la mort, John Sayles. Les mouvements d'appareils fluides et toujours utilisés à bon escient, alliés à une photographie pensée toujours en fonction du décor, lumineuse pour l'immeuble, sombre et gothique pour le magasin d'antiquités, participent pleinement à la réussite de ce thriller paranoïaque mené de main de maître par un réalisateur très inspiré. La modernité n'est pas seulement visuelle, mais aussi narrative. The Big Clock est construit sous la forme d'un long flashback, à l'instar, il est vrai, de quelques classiques du genre comme Assurance sur la mort, Adieu ma jolie ou encore Dead on Arrival. Le personnage principal, un journaliste d'investigation qui doit enquêter sur un meurtre dont il va devenir au fil des indices accumulés le principal suspect, est victime non pas d'une machination mais d'une erreur d'aiguillage qui va le plonger dans une situation embarrassante. Le boss, le vrai coupable, quant à lui, tente d'inculper Inkidam sans savoir qu'il s'agit du journaliste à qui il a demandé de mener l'enquête. L'intrigue arachnéenne frôle l'absurde, la dimension quasi schizophrénique du récit entraîne le spectateur dans un tourbillon de faux-semblants où le réalisateur n'hésite pas à brocarder le journalisme à sensation et l'opinion publique, un peu à la manière de Fritz Lang dans ses deux chefs-d'œuvre que sont L'invraisemblable vérité et La cinquième victime. Alors John Farrow est donc un peu plus qu'un faiseur sur La grande horloge, érigé aujourd'hui en classique instantané, tout comme certains de ses très très bons westerns, dont Hondo et Vaquero. Alors Ray Milland, qui interprète le personnage principal du journaliste, est parfait dans un rôle très hitchcockien de Monsieur Tout-le-Monde, accusé à tort. Mais c'est surtout la présence du génial Charlton, sorte de Michel Simon British et immortel réalisateur de La Nuit du Chasseur, qui fascine. Il incarne dans toute sa démesure un mania de la presse, veule et hypocrite, autoritaire et pourtant tellement humain. Alors pas humain dans le sens de la compassion, mais plutôt dans sa suffisance et sa médiocrité. Les personnages féminins sont en revanche sacrifiés, ce qui est assez rare dans le film noir, genre qui a souvent su mettre en valeur, derrière une misogynie de surface, les grandes actrices des années 40-50, à contrario du western. Alors pour finir, je dirais que La Grande Horloge, c'est vraiment un classique aujourd'hui du film noir qui est passé un tout petit peu inaperçu à l'époque en raison du peu de notoriété de son réalisateur.
Et pourtant, c'était donc adapté en français par Boris Vian, ce qui aurait pu...
C'est le roman qui a été assez connu. Et donc le film est connu aussi pour ça. Il a eu un bon succès, il a eu un certain succès en France du fait de l'adaptation. Je pense que ça a dû résonner chez les spectateurs.
Et la semaine prochaine, tu reviendras avec quel film?
Alors la semaine prochaine, puisque c'est plutôt marrant, ça tombe bien, je vais vous parler donc d'une sortie ciné qui se rappelle Knock Knock, et je vais vous parler du facteur sonne toujours deux fois dans le film noir. Alors le film aurait pu s'appeler Dring Dring, et je vous expliquerai le pourquoi du titre Le facteur sonne toujours deux fois, ce qui n'est pas évident quand on l'a vu ou lu la première fois.
Et vu que toi, que j'ai un problème, souvent je me dis, mais est-ce qu'il sonne deux fois, trois fois? Enfin, j'ai toujours un petit problème.
Deux fois, il sonne.
C'est deux fois. Hein.
Oui. Et les Inconnus avaient fait Le téléphone sonne toujours deux fois, une parodie justement de ce film.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Voilà, nous avons pu jouer un blind test cette semaine. La semaine prochaine, probablement pas, mais nous aurons, je l'espère, une interview d'Olivier Gourmet avec l'odeur de la mandarine. Et de toute façon, Marine en causera de ce film. Et toi, Manu?
Eh bien, j'ai dit Knock Knock et le facteur sonne toujours deux fois.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.